C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus ou moins calme.
You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello! Come here!
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien et même très bien sur O2 Radio 91.3. Il est 14h passé de quelques secondes à notre horloge. Bienvenue dans Cinéscent. Nous rentrons tout en douceur dans l'hiver et le temps autour de nous commence à se refroidir. Mais ici, dans notre studio, le temps est toujours radieux. Alors afin de préserver cette météo favorable, j'ai avec moi celui qui connaît tous les secrets de cette météo. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien ?
Croix.
Parfait.
Je suis la grenouille qui fait la météo. Ah, bonjour Anne-Lise, ça va très bien, merci. Et vous ?
Bon, ça va, merci.
Parfait.
Avec moi également le maître chaman qui sait lire dans le temps. Bonjour Patrick.
Miaou !
Bah, miaou ! Vous aussi, vous êtes...
Je suis le chaman.
Bravo !
Bonjour Anne-Lise, bonjour Jean-Jacques, bien revenu de votre petite escapade.
Oui, très bien. C'était bien.
Très bien, voilà. Au fait, on a oublié de préciser que nous sommes quand même le 12 novembre.
Oui, c'est vrai.
Oui, aussi. Aussi, mais oui, c'est un détail.
On s'en doutait un peu quand même.
Eh bien, aujourd'hui, à l'honneur, non pas un homme et une femme, non pas un film, mais bien une année entière.
Oh,
et cette année, c'est 1968.
Cette année-là.
Ah oui, alors, petit retour en arrière. Le 27 avril 1968, donc, le professeur Cabrol tente pour la première fois en France une grève du cœur. Et c'est un progrès, hein. Le 25 juillet, le pape Paul VI promulgue une encyclique qui s'oppose à toute contraception chimique. Alors là, c'est une régression. Pourtant, la technologie avance. Voici que naît Iris 50. Vous savez ce qui c'est ?
Oui.
Le premier ordinateur français. Tandis qu'aux USA, Douglas Engelbart et son équipe font la première démonstration de la souris d'ordinateur, promis, semble-t-il, à un bel avenir. Engelbart expose également, excusez du peu, la visioconférence et le courrier électronique en 68.
Alors, face à cette nouvelle concurrence de la télévision qui prend de plus en plus de place, l'industrie du cinéma doit s'adapter de plus en plus. Jean-Luc Godard a souvent profité de ses passages à la télé pour dire tout le mal qu'il pensait d'elle.
Voilà.
Leur retour sur quelques coups d'éclat devenus d'inoubliables moments de télévision.
Le cinéma ne transmet pas de culture. La culture, c'est la télévision. La culture, c'est ça. Vous et moi, comme ça, plus ou moins bien éclairés, bavardants. C'est la culture. C'est autre chose. La culture, c'est ce qui se mange.
La télévision fabrique de l'oubli. Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
La télévision, c'est pas fait pour communiquer, c'est fait pour transmettre des ordres.
Bon, par rapport à la télé, si vous voulez, bon, j'ai le sentiment d'être dans un pays occupé. Mon pays, c'est l'imaginaire. Et je suis dans un pays qui est occupé par des gens que l'imaginaire, je crois pas, n'intéresse pas. La télé, elle a un projet du pouvoir et les gens qui travaillent, qu'ils veuillent ou non, sont des employés d'un certain pouvoir et d'un certain statut.
Si on voyait à la télévision plutôt que d'entendre, qu'on parlait moins, qu'on voyait plus, je pense que je pourrais retenir, mais comme on fait que parler, moi j'ai rien vu du tout. Comprenez déjà ce que vous voyez, vous verrez si vous comprendrez après.
Quand ils entrent dans la salle, ils lèvent la tête. La télévision, on la baisse. C'est pour ça qu'il y a besoin de cinéma et que le cinéma restera, car il faut lever la tête.
C'est pas faux tout ça.
Magnifique.
Oui.
Magnifique.
Il y a une certaine vérité.
Ah oui, alors revenons au cinéma, si vous le voulez bien, mes amis. Bullitt. Bullitt est un film réalisé par Peter Yates, c'est ce qui est sorti aux États-Unis le 17 octobre 68. Alors, il s'agit de l'adaptation du roman d'un silence de mort de Robert Helfrich. Frank Bullitt, un lieutenant de police de San Francisco, est chargé par un politicien véreux, Walter Chalmers, de protéger Johnny Ross, gangster dont le témoignage est capital dans un procès où est impliqué l'homme politique. Tiens. Malgré les précautions prises par Bullitt et ses hommes, Ross est grièvement blessé et décède. Bullitt mène donc alors l'enquête pour retrouver les meurtriers.
Pour le novice désireux de se faire une idée de la quintessence des années 60-70, le générique du film est l'exemple parfait. Travelling latéraux sur le mobilier d'un autre temps, police de caractère, attention portée aux objets, cuivre chamarré et percussions afro-cubaines de Lalo Schifrin, rien ne manque.
Alors, on peut dire que la séquence quand même la plus connue du film, on est d'accord.
On est d'accord.
C'est sans doute celle de la poursuite en voiture.
Ah, bien sûr.
Dans les rues de San Francisco.
Oui, quand même.
Elle est longue, hein, cette séquence. Elle fait 10 minutes.
10 minutes, oui, en gros.
Et elle reflète ce qu'était le cinéma dans la fin des années 60, une ode à la virilité et à la bagnole.
La star du film avec Steve McQueen, c'est cette voiture, une Mustang GT390 Fastback de 1968.
Steve McQueen voulait une voiture presque banale, une voiture qu'aurait pu se payer son personnage, un simple flic. Une voiture pour aller au boulot, mais quand même suffisamment puissante.
Et puis, il y a la voiture des méchants, une Dodge Charger de 1968, choisie car elle ressemblait, selon le réalisateur, à un prédateur. Un monstre de 375 chevaux, utilisé à l'époque par la plupart des forces de police. La course-poursuite a été la dernière séquence tournée lors du film, pour s'assurer que Steve McQueen, qui voulait piloter lui-même la Mustang, n'allait pas trop en fait.
Warner Brothers was very nervous of Steve. Les producteurs étaient très nerveux, car McQueen avait tendance à prendre ses voitures pour les siennes.
Steve McQueen avait menti aux autorités de la ville. Autorisé à rouler à 80 km/h dans les rues de San Francisco, il dépassera les 150. 45 ans après, la séquence est toujours aussi efficace. Les voitures, elles, sont entrées dans l'histoire.
Et il est passé, Steve McQueen, de la moto à la voiture.
De la moto à la voiture, parce que dans La Grande Évasion, dont nous parlions off, il était un peu sur la moto.
Oui.
Alors le film se distingue tout d'abord par sa lenteur.
D'accord.
Porté par une mise en scène méthodique, investissant les lieux comme l'est fait l'enquêteur, le récit s'attache à montrer un homme au travail qu'aucun obstacle ne fera dévier de sa route.
De ce point de vue, c'est le visage sensationnel de Steve McQueen qui fait l'essentiel du travail, concentré. Marmoréen, entièrement rivé à sa tâche, ouais. Il fait montre d'un professionnalisme bien loin des hystériques revanchards que les années Reagan vomiront par la suite. Incorruptible et droit dans ses bottes, le flic représente paradoxalement une école des anciens face aux multiples détours que concèdent les politiques en place.
Alors Steve McQueen est formidable en tout point, bien sûr, hein. Présent, taiseux, animé par cette force intérieure que confèrent le droit et le sens de la justice. C'est une nouvelle fois l'histoire d'un homme trahi par celui qui l'emploie, l'histoire d'un homme obstiné qui sera prêt à tout pour résoudre cette affaire moins simple qu'il n'y paraît. Alors Peter Yates mise sur la lenteur, sur un montage rigoureux et précis. Il ne s'embarrasse pas de faux détails destinés à perdre le spectateur. Celui-ci résout l'enquête en même temps que le policier. Bullitt reste un bon produit de ces années-là, bien réalisé, bien interprété. Il manque peut-être ce souffle épique qu'on a rencontré chez des cinéastes plus récents comme John Woo, par exemple, ou Quentin Tarantino.
Oui, bien sûr. Alors, la musique de Lalo Schifrin l'accompagne des actions rapides, avec une orchestration importante, n'est-ce pas ? Mais elle sait se faire discrète lors des rencontres entre Steve McQueen et Jacqueline Bisset.
Oui.
De l'automobile à la moto, on l'a dit, il n'y a qu'un pas. Sortie en juin 68, la chanson du groupe Steppenwolf, Born to be Wild, souvent utilisée comme chanson de référence aux bikers, sera utilisée l'année suivante dans la bande-son du film Easy Rider de Dennis Hopper.
Yeah.
Wait.
Like a true nature's child, we were born to be wild.
Alors, en cette année 1968, les deux grands moments de sport sont les Jeux Olympiques.
Oui.
Alors, ceux d'hiver, de Grenoble, où la France remporte 4 médailles d'or, dont 3 pour le seul Jean-Claude Killy, n'est-ce pas ?
Oui.
Et ceux d'été, à Mexico, au saut en longueur, l'Américain Bob Beamon, il réalise un bond phénoménal de 8,90 m. Je l'ai vu en direct.
Oui, moi aussi, je l'ai vu en direct. J'étais tout jeune et, ouais. Et je l'ai vu en direct.
Moi,
eh
ben,
figurez-vous
moi aussi.
Que, oui, vous n'étiez pas encore né, poisson.
Allez-y.
Un autre Américain, Dick Fosbury, utilise en avant-première sa technique utilisée le Fosbury Flop,
vrai.
Vous savez, ce qui consiste à passer sur le dos, et maintenant qui est
une tradition.
Et le 16 octobre, les coureurs américains Tommy Smith et John Carlos protestent sur le podium contre la ségrégation raciale aux États-Unis en pointant leurs points gantés de noir vers le ciel. Les deux athlètes seront interdits de compétition
oui,
à vie.
Par la suite. C'est le début du mouvement des Black Panthers.
Absolument, oui, tout à fait, monsieur.
Il y en a que pour les Américains,
bah
me direz-vous.
Oui.
Eh bien non. Colette Besson devient l'héroïne de l'athlétisme français en reportant le 400 mètres après une dernière ligne droite d'anthologie.
Bordelaise, Colette Besson.
Nous sommes le 16 octobre 68. C'est la finale du 400 mètres féminin. La grande favorite, c'est la Britannique Lillian Borde. Mais ce jour-là, c'est une jeune athlète française qui va créer la surprise. Colette Besson, alors âgée de 22 ans, est déjà professeure d'éducation physique en Gironde. Et pour sa toute première grande compétition internationale, alors que la France est paralysée par la grève générale, la jeune enseignante en profite pour partir plus tôt en préparation. Elle passe ainsi plusieurs mois en altitude, à fond remue, pour s'acclimater aux conditions de Mexico. Un entraînement qui fera toute la différence, car ce 16 octobre 68, rien n'est gagné d'avance. À la sortie du dernier virage, la jeune athlète est seulement cinquième. Mais à l'arrivée, au bout d'une fabuleuse ligne droite, le miracle se produit.
Non, je ne pensais pas à la gagner, mais enfin, après 300 mètres de course, je me suis dit, pourquoi pas, tu es très bien, continue, allez, et puis ça s'est passé comme ça.
Après Mexico, son retour en France est triomphal. Le général de Gaulle dira lui-même avoir été très ému par cette victoire. Il lui remettra la Légion d'honneur en 1969.
Eh oui. Allez, pour le film à venir, comme il est d'usage de l'annoncer, âme sensible s'abstenir. La nuit des morts vivants, premier volet de la saga des zombies, est un film de George Andrew Romero, sorti le 21 janvier 1968.
Chaque année, Barbara et Johnny vont fleurir la tombe de leur père. Les environs du cimetière sont déserts. Johnny se souvient du temps où il était enfant et où il s'amusait à effrayer sa sœur en répétant d'une voix grave « Ils arrivent pour te chercher, Barbara. »
J'ai très peur.
La nuit tombe. Soudain, un homme étrange apparaît. Il s'approche de Barbara, puis attaque Johnny qui tombe et est laissé pour mort. Terrorisée, Barbara s'enfuit et se réfugie dans une maison de campagne. Elle y trouve Ben ainsi que d'autres fugitifs. La radio leur apprend alors la terrible nouvelle « Des morts s'attaquent aux vivants ».
Mais ce qu'on ne comprend pas peut déranger, voire inquiéter. Il en est ainsi du phénomène des morts vivants. C'est donc pour rester dans cette ambiance faite d'inquiétude, de tension et d'effroi que je vous propose d'écouter la bande-annonce du film dans sa version originale.
Welcome to a night of total terror.
Ah!
night of the living dead, the dead who live on living flesh. Night of the living dead. Night of the living dead. A night with the dead who cannot die. A night of total terror. Night. Of the living dead.
L'obscurité des décors et les jeux d'ombre renforcent une angoisse qui va grandissante. Les premières images sont un peu gore. Une tête à moitié dévorée où l'on peut voir toute la beauté d'un globe oculaire mis à nu et des scènes de cannibalisme on ne peut plus efficaces. Les gros plans se multiplient et l'on peut distinguer en détail que les dents des zombies lacèrent bien des organes en tout genre.
Non. Bien, alors, revenons dans le cimetière Anne-Lee si vous voulez. Oui. Vous venez, allez, on y va. Le nom de William Hinsman reste sera à jamais gravé comme le nom du premier mort-vivant vraiment effrayant de l'histoire du cinéma. Quasi immobile, mais doté d'une certaine force et d'une certaine intelligence, le zombie du cimetière possède le regard absent et les petites manies des morts-vivants qui feront la gloire d'un des maîtres de l'épouvante.
Alors, la pauvreté relative du budget du film, avec seulement $114,000, imaginez maintenant, contribuera à renforcer la force percutante de son sujet. L'action, en noir et blanc, se déroule dans un décor unique. Le son est pris sur le vif, le cadrage serré, la caméra portée à l'épaule.
Mais c'est très subtil ce film, parce que la nuit des morts-vivants, c'est une chronique qui renvoie au malaise engendré par la guerre du Vietnam. En 68, qui battait son plein, et qui prend alors de l'ampleur sur le terrain, mais également dans le monde des médias. Le film s'est imprégné de ce contexte politique et se définit ainsi plus volontiers comme une œuvre sociale qu'un film d'horreur à part entière. De plus, les Afro-Américains peuvent enfin s'exprimer, quelquefois au péril de leur vie, n'est-ce pas, Martin Luther King?
Romero remet donc les pendules à l'heure en créant un héros noir, Ben, qui maltraite de lâches survivants blancs. C'est un détail tout à fait anodin aujourd'hui, mais qui à l'époque dénonçait toutes les tensions raciales dans le pays.
Et pendant ce temps, les Equals cartonnaient avec Baby Come Back.
Baby, come back. Baby, come back. j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, 2-3 fois dans l'année. Moi, je trouve que c'est dingue.
Bon, alors l'heure est sérieuse maintenant, puisqu'il est question de se pencher vers notre télé et de baisser la tête, comme disait Godard
tout à l'heure. Oui.
En évoquant les films à venir dans la semaine elle-même à venir sur les chaînes du PAF, de la TNT et autres.
À partir d'aujourd'hui, donc, à partir de ce soir.
Et ce soir. Nous avons.
Alors moi, j'ai.
Rien.
Moi, j'ai aussi.
Allez-y.
Canal Plus, 21h10.
Très bien, merci.
Le coup de dé d'Yvan Attal, avec Yvan Attal, Mai Wen, Guillaume Canet, Marie-Josée Croze.
D'accord.
Mathieu, qui est Yvan Attal, qui doit tout à son ami Vincent, sa maison, son travail, et même de lui avoir sauvé la vie, il forme avec lui et ses compagnes un quatuor inséparable.
D'accord.
Mais la loyauté de Mathieu est mise à rude épreuve lorsqu'il découvre que Vincent, donc Guillaume Canet, trompe sa femme.
Ah, alors moi, on va se diriger vers, ouais, il le faut de temps en temps, vers C8, chez ses pénis.
Ah, moi j'y vais plus, moi.
Mais c'est du film, hein, c'est à 21h20. C'est le petit monde de Don Camillo.
Oui, moi, justement. Ah,
c'est
oui.
Le premier d'une série de 6, n'est-ce pas, Ace de 52, et c'est Julien Duvivier qui a réalisé.
Ouais, d'accord, mon frère.
Le sixième sera réalisé par Luigi Comencini. Oh, c'est un petit plaisir, quoi. Allez,
ouais, bon. C'est un petit plaisir coupable.
Un petit plaisir, oui.
Oui, oui, enfin, oui. Semi-coupable. Mais c'est C8 en plus.
Hein. Ah oui, bah c'est pour
bon,
ça.
Bon, mercredi.
Mercredi, j'en ai un.
Allez-y.
Mais tard.
Oui.
Sur TF1 série film à 23h25.
Oh, mais c'est
tard. C'est Je suis une légende avec Will Smith,
non,
c'est de la science-fiction sur un. Non, c'est sur un virus a détruit la moitié de la planète et l'autre moitié survit. Et donc, un homme tente de trouver un remède en échappant aux attaques. Mais laissez-moi terminer. Arrêtez de me couper la parole, Jean-Jacques, s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Voilà, aux attaques des gens qui sont contaminés.
Vous avez oublié de dire que c'est avec Will Smith.
Je l'ai dit, c'est avec le très beau Will Smith.
D'accord, très bien. Et
vous avez rien. Moi, j'ai.
Voilà, bon, bah, on s'en fiche, en fait. Alors, on passe à jeudi. Donc, moi, jeudi.
Petite voir, madame. Non, moi, j'ai un très, très joli film d'Emmanuel Buret, parce que j'ai une passion pour ce cinéaste, qui s'appelle Chronique d'une liaison passagère, avec Sandrine Kiberlin et Vincent Macaigne, qui ne fait pas des frites, mais qui est comédien. Voilà, c'est l'histoire de deux personnes, un est marié, l'autre est libre, et ils décident de vivre une aventure sans pression, jusqu'au moment où ils se rendent compte que cette aventure sans pression devait être un petit peu plus sérieuse que ce qu'ils avaient anticipé. Oui. Et c'est très, très, très joli.
Et ça, c'est mercredi.
C'est mercredi à 20h55.
Ou alors, c'est pas si tard que ça, mais il arrive à un moment donné qu'on change de jour. Et là, on est arrivé maintenant à jeudi.
Ah, on est à jeudi.
On est jeudi.
Et jeudi, j'en ai un.
Moi aussi.
Oui, moi aussi, petit. Bon. Petit, mais allez-y, Jean-Jacques.
Bon, à 21h10 sur C-Star.
Ah, ben, bah, bon, je crois qu'on a le même.
Ouais, c'est le Pacte des loups de Christophe Gans, un film de 2000, l'histoire romancée de la bête du Gévaudan, vous savez,
c'est tout à fait. Avec Samuel Le Bihan, Vincent Cassel.
Qu'on peut retrouver ce soir, d'ailleurs, dans Hugo.
Oui, Jérôme Régnier, Jean-Yann, Jean-François Stevenin.
Très, très grosse, quand même, très grosse prod.
C'est un film, c'est une histoire qui a existé, mais qui est largement romancée, quand même.
Mais enfin, il n'est pas sorti le soir. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est le traitement de justement cette légende du Gévaudan.
C'est exactement ce que j'allais dire, oui.
Oui, absolument.
Bon, après
moi, c'est sur Canal Plus Cinéma 21h. Ouais. J'ai un film qui s'appelle Le Théorème de Marguerite de Anna Novion avec Ella Rumpf, Jean-Pierre Daroussin, Clotilde Courau. Bon, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est brillante étudiante en maths, en normal sup, et qui présente sa thèse et elle se fait démonter par un étudiant qui invalide son raisonnement. Et donc, elle prend alors une décision radicale que je vous laisse le soin de découvrir jeudi.
Vendredi.
Vendredi, oui.
Oui.
Moi, j'ai rien.
Moi,
j'en ai un sur France 5.
Oui, moi aussi.
Mais tard, à 22h15.
Absolument, on a le même.
Claude Lelouch, 22h25.
Mais lequel, Lelouch ?
Il y a des jours, il y a des jours et il y a des lunes.
Il y a des jours, il y a des jours et des lunes.
Et des lunes, oui. Avec Gérard Lanvin, Vincent Lindon, Annie Girardot.
Le jour le plus court.
Voilà, et c'est du Lelouch, c'est-à-dire que c'est 13 personnages qui se croisent au moment de la pleine lune et on les voit un peu interagir.
Et ce film nous permet de revoir le comédien fabuleux qu'était Philippe Léotard.
Tout à fait.
Oui.
Et qui a un rôle tout à fait remarquable dans le film.
Tout à fait. Nous arrivons vendredi, c'est tout. Alors samedi maintenant.
Samedi.
Alors moi j'en ai un.
J'en ai un aussi.
Alors moi c'est un documentaire.
Ah.
C'est à 21h sur France 4.
Ah ouais.
Voilà, ça met en évidence, si besoin était d'ailleurs, le manque et donc l'importance de l'eau dans les pays africains, mm-hmm. notamment dans le nord du Niger, où se déroule l'action du documentaire. Et l'impact que ce manque provoque sur l'éducation des enfants, n'est-ce pas, qu'ils doivent marcher des heures pour aller chercher de l'eau et leur éducation en pâtit. Voilà, c'est réalisé par Aïssa Maïga, c'est de 2021. Ça s'appelle Marcher sur l'eau, 21h sur France 4. Samedi soir.
D'accord.
Très bien. C'est dimanche.
Manche. Moi, j'en ai un
sur TMC, mais tard.
Moi, j'ai rien.
Ah, moi, j'en ai un 21h sur Paris 15. Première.
Moi, j'ai Titanic.
Quoi ? C'est quoi, ça ?
Vous savez, sur un bateau.
C'est le premier en noir et blanc, c'est ça ?
Oui, bien sûr, avec Leonardo DiCaprio, tout bébé, dedans.
Ouais, mais vous savez qu'il va y avoir un Titanic 2 ?
Oui, mais arrêtez avec les
Titanic,
deux, là,
c'est
suffit.
Le retour, il paraît qu'ils vont le gonfler, il va remonter à la surface.
Non, ils vont le chercher, ils vont le réanimer.
Ils vont le réanimer, oui. Non, moi, 21h, Paris 1ère, j'ai les Barbouzes, Georges Otlener.
Ah, on en a parlé ici.
Ah oui, on en a parlé, Francis Blanche, Pierre-Éric Darc, Lino Ventura, Bernard Blier,
Voilà,
c'est...
C'est le film par excellence des années 60.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Comédie policière.
Oui, c'est ça, c'est un des bons.
Merci, Patrick. Je vous en prie. On arrive à lundi.
Alors, moi, j'en ai deux.
Alors, moi, j'en ai un.
Allez-y,
Jean-Jacques.
À 21h05.
France 3.
Sur France 3, oh, American Sniper de 2015.
De qui ?
Clint Eastwood.
Un très bon évidemment. Clint Eastwood, comme c'est souvent
Clint
le cas
Eastwood.
D'ailleurs. Alors le film, c'est sur la guerre d'Irak et sur les conséquences physiques qu'elle peut avoir sur certains soldats, en l'occurrence.
Et psychologiques.
Oui, bien sûr, sur un sniper performant,
qui
très performant.
Jamais.
Dont la tâche devient une obsession. Voilà, c'est avec Bradley Cooper, Sienna Miller et Jack McDormand.
En parlant de deux, d'ailleurs, sur TMC, lundi, 21h25, il y a Gladiator.
Ah, oui, bah c'est justement...
Mais le deux va très sortir grand Gladiator, avec Russell Crowe.
Ah, avec Maximus et Commode.
Tout à fait.
Avec le remarquable Joaquin Phoenix aussi.
Et extraordinaire, ouais, voilà. Bien. C'est un film à voir, je ne sais pas ce que donnera le 2, mais en tout cas, le 1 est merveilleux.
Peut-être. Allez, on continue.
Allez, on y retourne.
Allez, c'est parti.
Hop,
c'est
allez, le 7 septembre sort à Rome le film de Pierre... Pasolini, j'ai bugué. Théorème, les copies sont mises sous séquestre dès le 13 sur décision du procureur de la République de Rome, le jour où l'Observatore Romano, l'organe de presse officiel du Vatican, juge le film négatif et dangereux.
Et pendant ce temps, dans les autres salles, avant le film, nous avons droit à la première partie avec dessins animés, reportages, actualités et la publicité qui nous invite à consommer des glaces, bonbons et autres friandises qui sont d'ailleurs données, enfin vendues par les ouvreuses dont nous avons parlé la semaine dernière. Et de nos jours, la publicité demeure, mais sa fonction unique, faire acheter, donc vendre.
Mais la réclame des années 60 n'est pas tout à fait la même que la pub d'aujourd'hui.
Ah oui.
À vous de juger.
Balzac 0001.
Chaque jour, Madame Perrin gagne du temps grâce à... Aujourd'hui, elle va pouvoir jouer avec bébé.
Vous avez vu, avec... J'ai gagné du temps. Ma vaisselle est toujours nette et étincelante. Et mes mains restent douces et blanches.
Pec, pastis pec, plus de gosier sec. Pastis pec, pour plaire au fin bec. Pastis pec, le pastis impec.
La machine à tricoter, RK, tricote pour vous et tricote tout.
Côte, maille à l'envers, à l'endroit, il vous faut RK, RK.
Apollinaris, l'eau qui fait digérer des briques.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape.
Merveilleux, sur 91.3, eau de radio, bien entendu.
On devrait faire des jingles comme ça, c'est absolument c'est génial, je trouve. Alors, figurez-vous que le 2 avril, redevenons sérieux un peu.
Oui, bien sûr. Oui.
Le 2 avril 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick, sort sur les écrans. Et il commence par un écran noir qui dure 2 minutes 55, signe d'une ambition démesurée qu'on avait déjà vue à l'ouverture de Lawrence d'Arabie. De la même manière qu'on doit s'accoutumer ses yeux à l'obscurité, le cinéaste nous prépare ici à l'indicible, à venir d'images qui vont révolutionner l'histoire du 7e art avec la complicité du romancier Arthur C. Clarke, auteur des nouvelles qui ont inspiré Kubrick.
Alors pour le critique de cinéma Michel Simon, je le cite, « L'utilisation par Kubrick des premières mesures d'Ainsi parlait Zarathoustra nous renseigne sur ses intentions profondes. Kubrick se réapproprie le poème symphonique de Richard Strauss en même temps que la vision nietzschéenne. 2001 propose la même progression que chez Nietzsche, le passage du singe à l'homme, puis celui de l'homme au surhomme. »
Il est compliqué d'expliquer ce film. Il reste une énigme pour beaucoup de cinéphiles.
Ouais, c'est vrai.
Pourquoi le monolithe? Quelle est sa symbolique? Nous, pauvres spectateurs, sommes devant un abîme de perplexité. Nous voyons défiler des images sublimes au demeurant, mais tout énigmatique. Ce qui rend le film étrange et presque impénétrable, petit extrait.
Il y a 18 mois, a été découverte la première preuve formelle de l'existence d'une forme de vie intelligente extraterrestre. C'est un monolithe noir enfoui à 15 mètres sous le sol lunaire, près du cratère Tycho. À l'exception d'une onde extrêmement puissante qu'il émet en direction de Jupiter, ce monolithe, qui a la forme d'un parallélépipède et dont l'âge a été évalué à 4 millions d'années, est resté depuis 18 mois complètement inerte. Son origine et son but sont encore aujourd'hui un mystère total.
Allô, Carl, est-ce que tu me reçois? Allô, Carl, est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu me reçois, Carl?
Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5.
Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A.
Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.
Kubrick ne voulait pas expliquer son film, alors pour ça il disait
« Tu es libre de spéculer comme tu le souhaites sur la signification philosophique et allégorique du film, et spéculer indique que ça a réussi à accrocher le spectateur à un plus haut niveau. Mais je ne veux pas verbaliser une carte de route pour 2001 que chaque spectateur se sentira obligé de suivre. » À propos de la fin du film, il disait aussi...
L'idée, c'était qu'il soit emporté par des entités divines, des créatures à l'énergie, à l'intelligence pure, sans forme ni silhouette. Ils le mettent dans ce que l'on peut décrire comme un zoo humain pour l'étudier. Et toute sa vie se déroule dans cette pièce. Il n'a pas conscience du temps. Ça se passe juste comme le montre le film. 2001, pour moi, est un film magistral, l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Il offre un voyage sensoriel et philosophique à celui qui s'accroche à son fauteuil, non pas pour comprendre, mais bien pour admettre le génie de cet homme.
Il est composé de 4 séquences bien distinctes les unes des autres. L'aube de l'humanité, des vaisseaux dans l'espace, la mission de Jupiter 18 mois plus tard, auquel il faut rajouter Jupiter et au-delà de l'infini. 2001 est un film qui mérite d'être vu et revu. Il y a toujours une porte à ouvrir pour comprendre. Et si on ne comprend pas, laissons Kubrick nous emporter.
Alors comme toujours chez Stanley Kubrick, la musique joue un rôle essentiel. Partenaire de jeu, soutien à l'action, réponse visuelle aux questions que l'on se pose. La musique est omniprésente. Tout commence donc par les premières mesures d'Ainsi parla Zarathoustra de Richard Strauss. Et nous avons ensuite de charmantes mesures du Beau Danube bleu de Strauss fils lors d'un ballet mémorable d'Astronef.
Thank you.
Dis donc, cette danse.
C'était très, très beau.
Magnifique.
Vous avez revu les petits astronefs qui se baladaient dans le
monde. Oui.
Alors,
beau.
Qu'est-ce que vous vouliez dire
pendant qu'à Broadway, pardon, je me trompe de ligne.
Bah oui.
Pendant qu'à Broadway ont lieu les premières représentations de la comédie musicale Hair et qu'en France, les Maudits Blues cartonnent avec Night in White Satin, de petits groupes d'étudiants conduits par Daniel Cohn-Bendit occupent la salle du conseil des professeurs de la faculté de Nanterre.
Leur revendication ? La libre circulation des filles et des garçons dans les résidences universitaires perçues comme un droit à l'égalité et à la liberté de la sexualité.
En réponse, eh bien, le doyen décide de la fermeture administrative de la fac, ce qui provoque évidemment la diffusion de la contestation dès le lendemain dans le quartier latin et à la Sorbonne. Ce qui n'était qu'une petite série d'incidents devient une crise nationale et le début proprement dit de mai 68.
Les pavés jetés au ciel, pas encore retombés, ont laissé dans la mémoire des Français une illusion collective. Rien ne sera jamais plus comme avant. Plus nombreux, plus éduqués, plus exigeants, les enfants du baby-boom découvrent qu'ils doivent faire leur trou dans une société qui n'a ni prévu, ni planifié leur arrivée massive. Dès lors, une seule option, tout renverser. Tout renverser, mais hors des partis politiques traditionnels. C'est le temps des groupuscules. À l'extrême gauche, deux mouvements occupent principalement le pavé. Les trotskistes de la Ligue communiste, partisans de la révolution permanente. Et la GP, la gauche prolétarienne, inspirée du maoïsme qui théorise l'inéluctabilité d'une guerre civile.
Pour briser la manœuvre de la bourgeoisie, pour briser sa tentative d'encerclement et d'anéantissement du mouvement populaire, il faut intensifier la résistance. Le 27 mai, pour la bourgeoisie...
Les Mao montent des opérations à la Robin des Bois, telle la mise à sac de Fauchon, l'épicerie de luxe, et la redistribution de ses produits à des immigrés.
1968 est une des années les plus impressionnantes en termes de cinéma social. Parce que c'est une année extraordinaire également sur le plan social, un peu partout dans le monde et surtout en France. Une année de transition entre l'ancien et le nouveau monde. Le cinéma français se cherche encore entre tradition et modernité, mais l'impact des événements de mai 68 se fait sentir jusque dans les salles de cinéma. Les jeunes réalisateurs inspirés par la contestation cherchent à renouveler la forme et le fond de leurs films.
Alors, bon, l'exemple le plus frappant, c'est La Chinoise. Tiens, de qui ?
De Godard.
Godard, sorti en mai, juste après les événements. Godard, l'une des figures les plus iconiques de la nouvelle vague, mélange le cinéma politique et la critique sociale, en s'attaquant à la révolution culturelle chinoise, tout en mettant en scène des jeunes idéalistes militants et engagés. Le film incarne parfaitement l'esprit de l'époque entre révolte, utopie et critique du système.
Et alors, de son côté, Yves Robert sort Alexandre le Bienheureux avec le formidable Philippe Noiret. Sur le tournage, il revenait sur le caractère très hédoniste de son film.
C'est sûr.
Pour résumer le scénario, c'est un peu difficile parce que c'est une espèce de conte et aussi une chronique. Alors, c'est un peu difficile, mais enfin, le thème, en gros, est l'histoire d'un homme qui cherche la liberté à travers l'agitation du monde. Enfin, c'est un paysan, il y a aussi une agitation partout maintenant avec la machine agricole, et qui trouve quand même sa liberté malgré les hommes et surtout les femmes. Il y a aussi un second plan qui serait apprenez à ne rien faire, parce que je crois que de ne rien faire, ça n'existe pas, on fait toujours quelque chose. D'ailleurs, je crois que la différence entre l'oisif et le paresseux veut toujours faire quelque chose, tandis que l'oisif ne fait rien. Or, mon personnage n'est pas un paresseux, c'est un contemplatif. Le personnage du film, c'est un contemplatif. Alors, quand il est arrêté et qu'il ne fait plus rien, il fait beaucoup de choses. Il regarde les oiseaux, il va à la pêche, il vit, quoi. Comme un homme...
Combien de bugs, toi ?
Constitué. C'est un vacancier, c'est un grand vacancier. Il a pris des vacances pour la vie.
Voilà. Alors, la Cinémathèque française est dirigée alors par Henri Langlois.
Oui.
Mais le 9 février, André Malraux, à la tête du ministère des Affaires culturelles, reproche à Langlois sa mauvaise gestion administrative et financière. Il l'évince et le remplace par Pierre Barbin et Raymond Maillet, qui, à peine nommés, se rendent rue de Courcelles. On apprend à Langlois que le nouveau directeur est dans le hall. Peu désireux de procéder à une quelconque passation de pouvoir, Langlois s'enfuit par une porte dérobée. Peu après, Pierre Barbin fait poser de nouvelles serrures aux portes d'entrée et licencie 54 Allez. Membres du personnel.
Paf.
Et c'est le début de l'affaire Langlois. Un comité de défense de la Cinémathèque française est constitué. Par la suite, sous diverses pressions et après s'être mieux penché sur le dossier, Malraux décide de réintégrer Langlois. Il est ainsi confirmé dans ses fonctions le 22 avril. L'affaire Langlois est close.
Et oui, en fait, 68, bah, c'est une année où les films deviennent des instruments de réflexion, de critique sociale et politique. Les cinéastes réagissent aux événements du monde et y répondent par de nouvelles formes, plus audacieuses, plus directes, plus expérimentales. Le cinéma prend la parole pour dire son mécontentement, sa révolte et son désir de transformation, aussi bien esthétique que sociale.
Alors Pasolini avec Oedipe Roy,
oui.
Blake Edwards avec The Party, Kenji Mizumi avec La légende de Satoshi, Les tambours de la colère, oui, enfin à peu près en gros, font partie de ce mouvement fondateur, prélude à une décennie de grande créativité où le cinéma mondial va se réinventer dans de multiples directions. Mais toujours avec cette volonté de pousser les frontières et de questionner le statu quo. Le cinéma devient plus social, il est le reflet de cette nouvelle vague de liberté.
68 est aussi l'année de sortie de Massachusetts des Bee Gees.
Super bon.
Massachusetts. Something's telling me I must go home.
Bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça !
Eh ben oui, c'est vrai, évidemment. Alors là, maintenant, vous reconnaissez le jingle. On va vous parler tout à l'heure des films qui étaient à la télévision. Maintenant, demain, c'est les sorties au cinéma, dans les salles.
Il y a des défauts de syntaxe.
Oui, c'est pas grave. Je me suis compris.
Oui, oui, bah, c'est le principal.
Alors, vous voulez dire qu'on va parler des films qui sortent demain.
Oui, voilà.
À peu près, vous avez traduit ma pensée.
Voilà.
Alors, magnifique. Donc, allez-y. Moi, j'en ai deux.
Moi, j'en ai trois.
Moi, j'en ai un.
Alors, je vous donne le premier. Oui. On va s'en débarrasser. C'est ouais. Gladiator.
Oui, voilà. Mais je l'ai même pas mis, moi.
Non plus. Voilà. Exit Maximus et Commode. Bonjour Lucius, Marcus et Lucilla. Voilà, on va voir. C'est pas une suite puisque c'est pas les mêmes personnages, mais bon, Ridley Scott avait fait beaucoup sur le premier. Ouais. Est-ce qu'il sera à la hauteur, je sais pas.
Alors les critiques sont.
Il paraît que Denzel Washington est très bon.
Assez positive.
Oui.
Oui.
Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.
Et ben voilà, c'est pas mal. C'est déjà bien.
Alors après.
Alors moi, j'en ai, J'en ai un qui me semble important à voilà, voir quand même.
On va se contenter de celui-là.
Ça s'appelle No Other Land.
Yes.
C'est de Basel Adra, Amdam Balal et Yulal Abraham. Alors, ce n'est pas un film de cinéma, c'est un documentaire.
Ah, très bien.
Depuis plus de 5 ans, Basel Adra, un activiste palestinien en Cisjordanie, filme l'expulsion de sa communauté par l'occupation israélienne qui détruit progressivement les villages et chasse ses habitants. Et il rencontre Yuval, qui est un journaliste israélien, qui le soutient dans ses démarches et une amitié inattendue va voir le jour. Donc en fait, c'est un regard croisé et commun entre un Palestinien et un Israélien sur ce qui se passe actuellement en Cisjordanie en ce moment. Et c'est un film qui me paraît important quand même.
Très bien.
Tout à fait.
Anne-Lise,
oui, et mais moi, je vais parler d'une part manquante d'un film de Guillaume Sané avec Romain Duris et
oui.
Judith Chemla.
Ils en parlaient ce matin dans l'émission
sûrement,
de Nagui.
Tous les jours, José parcourt Tokyo au volant de son taxi à la recherche de sa fille, Lily. Séparé depuis 9 ans, il n'a jamais pu obtenir sa garde alors qu'il cesse désespéré de la revoir. Oui. Lily monte un jour dans son taxi
et voilà.
C'est le début de la, de la rencontre entre ce père et cette fille. Il faut savoir qu'au Japon, en fait, il n'y a pas de garde partagée. C'est
oui.
L'un ou les autres.
C'est le premier qui
c'est ça. C'est
oui,
pour
oui.
ça qu'il y a eu beaucoup aussi d'enlèvements d'enfants.
Oui.
Et souvent, d'ailleurs, sur des personnes des couples binationaux. Et on est tout à fait dans ce thème-là et
d'accord.
Ça a l'air d'être un film très très
d'accord.
chouette, comme peut le faire aussi souvent
bon,
Romain Duris.
La séquence, si vous le voulez bien,
non.
Avec le dernier Xavier Beauvois.
Ah,
oui.
Bah, je voulais en parler, la Vallée des Fous.
La Vallée des Fous,
magnifique. Jean-Paul Rouve et tout.
Et Pierre Richard.
Ouais, et en plus, c'est de circonstance.
Oui, puisque ça parle du Vendée Globe. Le faux, le virtuel sur les jeux vidéo.
Absolument,
oui.
le virtuel regatta.
Et Rouve, qui se restaurateur complètement endetté, qui trouve qu'un moyen, c'est gagner la course virtuelle en montant sur son bateau qui est au fond du jardin.
Absolument.
Ouais, c'est le thème
ouais.
est intéressant.
Mais Xavier Beauvois est un sacré cinéma.
Et Jean-Paul Rouve est un excellent comédien,
tout
Pierre Richard aussi. Voilà,
c'est
moi, c'est tout
sympa.
Ce que je voulais dire sur les films à sortir.
Écoutez, c'est parfait, parce
mercredi
que...
Mercredi prochain.
Voilà.
Eh bien,
comment
voilà.
Oui.
Eh bien,
oui,
voilà,
quoi,
oui, quoi. Bah, si naissance, c'est fini.
Ah non.
Oh, si.
Si. Vous allez pouvoir sortir de chez vous,
ah bon
bien couvert, pour éviter de prendre froid. Mais si le temps se dégrade, vous allez pouvoir écouter et réécouter notre émission en podcast sur le site d'Odeur Radio, rubrique Cinéscent, et nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. En attendant de se retrouver en direct mardi prochain, où nous accueillerons pour notre formule toile blanche un invité qui
oui.
viendra nous parler de son rapport au cinéma.
Absolument. Et alors figurez-vous, vous savez où ? Ce sera à 14h sur Odeur Radio 91.3, bien entendu.
Jean-Jacques,
oui.
L'heure est venue de la chanson Perle.
Oui, alors attention, aujourd'hui c'est du très lourd.
Oui,
je vous
oui.
avertis de suite.
Ça,
en 68,
vous nous avez habitués à ça.
Le musicien américain The Legendary Stardust Cowboy enregistre Parazed. En 73, 5 ans plus tard, n'est-ce pas, la NASA utilisera cette chanson pour réveiller les membres de son équipage spatial. Eh bien, celui-ci aurait tellement été marqué par le choc que la NASA interdira à nouveau l'utilisation de la chanson à cette fin. Bon, voilà, si vous somnolez en ce moment, ben, c'est le moment ou jamais de vous faire une idée, n'est-ce pas ?
Allez, à mardi prochain,
oui, si on est
et en entendant...
Bon vent à tous.
Hey, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah!